Allô, Luc Lavoie.
Allô, Myriam, je suis convaincu que t'as pas porté ton bodysuit dimanche.
Non, même pas de gants, pas de tuque, c'est extraordinaire, j'avais un coton
Il faisait
boité.
Beau, hein?
Oh.
Il faisait beau.
Oh, que j'ai aimé
J'ai été
ça.
Me promener un peu partout dans Québec. Ben oui, j'ai été me promener un peu partout dans Québec. J'étais au musée, c'était magnifique, c'était formidable.
T'es allé t'enfermer dans un musée, la première journée de soleil qu'on a de l'hiver?
Ben, je suis allé faire une petite heure dans le musée, quoi, je veux dire.
T'es quand même
D'ailleurs, pour ceux qui y ont jamais été, ben, quelqu'un qui y a jamais été devrait y aller. Le musée des Beaux-Arts du Québec, là, ouais. dans la vieille section, il y a les quatre grands peintres québécois. Et franchement, là, c'est pas la première fois que je la vois, cette exposition-là, mais c'est extraordinaire. Riopel, Jean-Paul Lemieux, quelle beauté.
Enfin, tu sais, allez voir ça. C'est Marc-Aurel
Fortin. Non, c'est
Fortin,
pas Fortin,
Nicolas?
C'est Fernand Leduc et l'autre est super connu, là, puis je l'ai sur le bout des doigts, là, mais enfin, c'est quatre salles dédiées à quatre grands maîtres du Québec qui ont rayonné dans le monde entier. Extraordinaire. À voir.
Luc, on a passé, pendant que nous profitions du beau temps, du soleil, etc., il y a des gens qui avaient de nouveau les deux pieds dans l'eau, des cuissardes, et qui essayaient de lutter contre l'eau pour empêcher l'eau de rentrer dans leur maison puis de détruire leur patrimoine. Et je suis... Vendredi, là, on regardait ça monter, Jeff puis moi, puis on disait, comment ça se fait que le gouvernement est si réticent à appeler au secours l'armée? Or, dans les minutes qui ont suivi... Geneviève Guilbeault a envoyé une lettre à Ralph Goodale qui a dit oui tout de suite, etc. Parce que on voyait des gens de maladroits et âgés bien souvent essayer de remplir des sacs de sable, tandis qu'on a plein de jeunes hommes en pleine forme, jeunes hommes et femmes en pleine forme, qui vont au gym pour faire ça.
Oui, en parlant de femmes, là, c'est la première fois de l'histoire du Canada qu'une unité de combat, c'est-à-dire la deuxième division du Canada, est commandée par une femme, le brigadier général Jenny Carignan. Alors, pour revenir à ton propos, dans les jours qui ont précédé, sans être dans le secret des dieux, tu peux être sûr que l'armée avait déjà commencé à examiner la situation. Ils ont accès à toutes sortes de technologies que seuls eux peuvent accéder, c'est-à-dire la reconnaissance par satellite et tout ça. Ils devaient déjà avoir une idée très, très précise au moment où la demande a été formalisée de ce qu'ils devaient faire. Mais ce qui est surtout intéressant de voir le déploiement qui se fait à partir de Valcartier, dans la région de Québec, là, c'est que l'armée a appris beaucoup, beaucoup. Autrefois, il y avait des catastrophes naturelles, comme les inondations du Saguenay, comme ce qu'on a vécu au Manitoba, et l'armée faisait ce qu'elle pouvait, et s'adaptait. Et soudainement, ils ont dit, ben, on dirait que les catastrophes naturelles se répètent de plus en plus souvent, alors on va en faire un domaine d'expertise, parce que l'armée a les qualités de ses défauts puis les défauts de ses qualités. Les défauts, c'est que c'est une machine extrêmement lourde qui demande une planification à très long terme, enfin dans les moindres détails. Donc c'est lent, ça peut être très lent. La qualité des défauts, c'est qu'une fois que la planification est terminée puis que l'armée décide ou reçoit l'ordre de se déployer, c'est d'une efficacité absolument remarquable. D'autant plus que il y a quelques années, ils ont créé ce qu'ils appellent l'unité d'intervention immédiate.
Okay.
Elle est basée à Valcartier. Il y a des hangars qui contiennent précisément ce dont on pourrait probablement avoir besoin en cas de catastrophe naturelle. Ça va des véhicules en passant par les grandes bottes de pêcheurs que portent nos soldats qui vont aider sur le terrain, en passant par des pompes géantes, évidemment toutes sortes de véhicules qui normalement sont des blindés utilisés pour faire la guerre, là deviennent des véhicules non seulement de paix mais de sauvetage. Alors l'unité d'intervention immédiate est toujours commandée par un lieutenant-colonel du Royal 22e Régiment. Dans ce cas-ci, c'est le colonel Bertrand, donc le commandant du 2e bataillon. Et une fois que l'ordre de déploiement est donné, c'est assez extraordinaire la vitesse à laquelle il se déploie. Je dois dire, j'ai pas été voir cette année, mais en 2017, j'y avais été parce que le régiment dont je suis colonel honoraire, les fusiliers Mont-Royal, le commandement de ce qu'on appelle... Alors, t'as l'unité d'intervention immédiate, ouais. Ça, c'est la régulière. Ça, c'est essentiellement le Royal 22e Régiment, avec le 12e Régiment blindé qui sont basés à Valcartier, qui ont des tâches très spécifiques. Vous allez vous déployer de telle et telle et telle façon, à telle rapidité. Et là viennent s'ajouter les forces de réserve. Et les forces de réserve, c'est ce qu'on appelle regroupé comme ça, on appelle ça le groupe bataillon territorial. Alors, une fois que les gens de la régulière ont établi ce qu'on pourrait appeler des têtes de pont dans des endroits stratégiques comme en Beauce, comme dans la région de Rigaud, et ainsi de suite, là, ils déterminent quelles sortes de ressources ils ont besoin, mais ils le font à toute vitesse. Et là, c'est la réserve qui entre en ligne de compte. Alors, okay. Par exemple, dans la région de la Beauce, tu peux être sûr que presque la majorité des militaires sur le terrain sont des gens qui appartiennent au régiment de la Chaudière, qui est basé à Lévis, et aux Voltigeurs de Québec, dont on a reconstruit avec fierté le manège militaire sur la Grande Allée. Et dans la région de Montréal, ça va être les fusiliers Mont-Royal, le régiment de Maisonneuve, ces régiments-là qui vont se déployer. Et ils savent ce qu'ils ont à faire, et ils se déploient selon une hiérarchie et une chaîne de commandement militaire. C'est-à-dire que je me souviens que le commandant du groupe bataillon territorial en 2017, le colonel Cohen, m'avait dit, parce que lui, il avait fait l'Afghanistan, comme d'autres, il m'avait dit, tu sais, la différence entre se déployer dans une zone de combat ou dans une zone sinistrée, elle est pas très différente pour un militaire. Il y a toute cette espèce de structure hiérarchique propre à l'armée et qui descend tout au long. Et quand ils se déploient, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont prêts à le faire, ils ont l'équipement pour le faire et ils ont aussi accès à ce qu'on appelle, parce que le général Carignan, Jenny Carignan, est aussi commandant de ce qu'on appelle les forces opérationnelles interarmées. C'est-à-dire que l'unité d'intervention immédiate s'est rattachée essentiellement aux forces terrestres. Mais on a vu hier se déployer dans le coin de Rigaud, en tout cas, des forces qui appartiennent à la marine canadienne, la marine militaire canadienne, qu'on appelle maintenant la marine royale depuis que Harper a eu la bonne idée de ramener ce titre-là. Mm-hmm. Et là, ils arrivent avec des zodiacs, divers équipements aussi pour justement évacuer, rendre sécuritaire des endroits, parce que dans les directives de l'armée, il n'est pas question de protéger des maisons ou des bâtiments. Ils sont là pour protéger des individus. Ils peuvent, quand on leur demande, faire la patrouille de paix, c'est-à-dire ce qui appartient normalement aux forces policières. Mais les forces policières étant débordées, ils ont aussi, dans l'armée, il n'y a rien qui se fait au hasard. C'est-à-dire, ces gens-là ont été entraînés dans leur entraînement de fantassins, dans leur entraînement de fantassins de l'infanterie et des blindés. Mmh. Il y a une période d'entraînement, celle qui correspond à l'unité d'intervention immédiate, qui est dédiée spécifiquement à qu'est-ce que je fais s'il y a encore des inondations, s'il y a un feu de forêt qui est en train de mettre en danger une ville, comme ils sont intervenus à Fort McMurray dans le temps. Et là, chacun arrive, et moi, j'avais été extrêmement impressionné d'y voir aller, parce que tu pars du point zéro, là, t'as rien, comprends-tu, puis les conditions sont pas idéales, t'es dans l'eau et tout, et il faut qu'ils se fassent des campements, puis qu'ils campent sur les lieux, puis qu'ils se nourrissent, puis il y a toute la logistique qui suit ça, et vraiment, un chapeau, parce que je sais pas combien d'autres pays en sont venus à développer des méthodes aussi efficaces et aussi adaptés au terrain que ceux-là. Et en plus, évidemment, on est au Québec, alors ce sont tous des francophones. Je me souviens que dans 2017, ils avaient manqué de ressources et ils avaient fait venir des fantassins de Pitawawa. Et ils en avaient fait venir de la région d'Ottawa aussi. Mais en gros, là, c'est essentiellement tous des Québécois francophones. Oui, Myriam.
C'est Jeff qui a une question pour toi.
Jeff, vas-y.
Oui, Luc, j'étais persuadé qu'il était efficace, puis tu fais rien que le confirmer en parlant de leur entraînement. Mais s'ils sont si efficaces que ça, pourquoi tu penses qu'on hésite autant avant de leur demander un coup de main?
Ça, je sais pas c'est quoi exactement la raison pour laquelle, parce que, au fond, ça fait partie d'un des avantages d'être dans le Canada.
Ben, c'est ça.
Parce que c'est le fédéral qui paye, et en plus...
Il n'envoie pas de facture après?
Non, il n'y en a pas de facture après. Et ça fait partie... C'est comme une police d'assurance. C'est l'équivalent d'une police d'assurance. Pourquoi Mme Guilbeault a attendu si longtemps? Elle agissait certainement sur les conseils. Et en passant, très souvent, au ministère de la Sécurité publique, ce sont d'anciens généraux de l'armée canadienne qui se retrouvent dans ces postes-là quand ils prennent leur retraite. Par exemple, le général Lafaux, qui est maintenant le président de la Société des traversiers du Québec, ça doit être moins drôle, cette affaire-là. Ouais. Il a été nommé là sur une base intérimaire. C'est lui qui s'occupait au ministère de la Sécurité publique d'être le point de contact avec les forces armées canadiennes. Alors, ce sont des gens qui se comprennent bien. Pourquoi ils ont attendu autant de temps? Probablement parce qu'ils étaient encore à déterminer l'ampleur de l'affaire, tu comprends? Faut pas non plus, quand tu diriges des opérations comme celle-là, que tu te laisses emporter par la vague médiatique. Là.
Okay.
Et je parle pas en mal des médias, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu écoutes RDI ou LCN, tu as l'impression qu'on comprend-tu, on est tous en train de se noyer dans l'eau, ouais. Alors que c'est très localisé. Alors probablement qu'ils étaient encore dans la phase d'évaluation, parce que moi, j'avais appris, il était 8 heures le matin, puis elle a annoncé à midi et demi qu'ils allaient probablement répondre à une demande. Et au moment où la demande se fait, c'est assez impressionnant. Les portes des fameux hangars de Valcartier s'ouvrent, puis les véhicules sortent, puis ça décolle, et tout le monde sait précisément à quelle place il s'en va.
Dans le fond, ils attendaient juste le call.
Ils attendent juste le call parce qu'ils sont prêts pour ça. Ils sont prêts et ils sont tenus aussi de... Je dis, il faut pas se laisser emporter par la vague médiatique. Non, il faut pas non plus vivre dans une espèce de vide. Alors, l'armée était au courant là, qu'il y avait des problèmes d'eau. Ils avaient dû commencer à s'assurer que tout était prêt, que les lits de camp pour les militaires seraient prêts, que tout ce qu'il fallait pour aider les sinistrés c'était prêt, que les véhicules étaient en ordre de marche. Et au moment où ils donnent le cue, là, si tu me permets l'anglicisme, ça part... Et tout le monde sait exactement où ce qui s'en va. Il y a personne dans ça qui dit, ah, tourne donc de bord. Ben, arrête-toi un peu, on va repenser à ça. Non. Ça va à une vitesse inouïe. Alors, ces gens-là sont des gens de la région de Québec, les gens qui commandent ces opérations-là. Et ils sont nombreux, là, qui nous entendent présentement, les familles des militaires, les militaires eux-mêmes qui n'ont pas été déployés ou qui viennent de revenir de déploiement parce qu'ils sont... Et on peut... Tu sais, ces militaires-là, on peut leur demander, puis ils le font, de travailler 16-17 heures par jour. Donc, ils n'ont pas beaucoup le temps de dormir. Ils vont y aller jusqu'à la limite, c'est ça fait partie de... Comment dire, de la mission militaire. Ils vont aller à la limite de ce que l'humain peut tolérer. Et ensuite, il y en a d'autres qui vont les remplacer, puis d'autres qui vont les remplacer, et d'autres qui vont les remplacer. En plus, autre petit détail qui a son importance pour ces gens-là, les militaires de la réserve sont payés, évidemment, pour être dans la réserve, mais ils sont payés par journée ou demi-journée. Mmh. Et quand ils se déploient dans une zone comme celle-là, ils sont payés avec une espèce de boni par-dessus parce qu'ils sont dans une zone opérationnelle. Okay. Alors, nos réservistes, qui sont souvent des étudiants à l'Université Laval, qui sont souvent des étudiants au cégep aussi, qui ont 20, 21 ans, soudainement, ils ont un bon petit magot, enfin, pas la fin du monde, mais quand même, des revenus importants qui viennent les aider, parce que c'est souvent comme ça qu'ils soutiennent leurs études. Alors, moi, je dis chapeau à nos militaires, chapeau à nos forces armées canadiennes, je dis à mes amis du Royal 22e Régiment qui commandent cette opération-là, je me souviens, comme le veut leur devise, on a toujours été fiers de vous, c'est pas pour rien que le Royal 22e est considéré comme une force d'élite à l'échelle mondiale. On est très, très fiers de vous. Et je pense qu'il faut le souligner à l'occasion. En Beauce, il paraît que les choses sont en train de se calmer. Là. L'eau commence à descendre un peu. Je pense que le pire est passé. Et qu'encore une fois, les militaires ont réussi. Je sais pas si tu as déjà vu les pompes à eau qu'ils utilisent. C'est incroyable. J'avais vu, moi, en 2017...
Le problème, c'est qu'il faut que tu arrives à sortir l'eau à un endroit où elle va s'écouler ailleurs. Non?
C'est ça. Mais dans le coin de Rigaud... Ils avaient utilisé ces pompes-là. Ils avaient comme construit des digues. Et ils avaient donc, avec la digue, ils retenaient l'eau puis ils la lançaient l'autre côté avec des pompes, avec des tuyaux d'un diamètre absolument incroyable. Ils vidaient un quartier entier.
Un auditeur a une question pour toi. Pourquoi est-ce que l'armée n'est pas appelée pour détruire les embâcles de glace avant que l'eau remonte? C'est comme si, au lieu d'enlever le bouchon, on passait à mop. Est-ce qu'ils sont équipés pour... faire kaboum avec les embâcles?
Vraiment, je sais pas comment répondre à ça. L'armée intervient quand la catastrophe est arrivée. Je pense pas que l'armée intervient en amont. Je pense que ça revient aux forces de la sécurité civile de penser à ça.
Il y a un autre
quand l'armée intervient, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen.
Il y a un autre auditeur qui prétend qu'un des freins à appeler l'armée, ce sont les syndicats d'employés municipaux.
Ah, j'avais jamais entendu ça.
Qui ne veulent pas qu'on appelle de l'aide tant qu'eux autres sont pas vraiment débordés.
Ça, je savais pas ça. Je dis pas que c'est faux, là, mais j'avais jamais entendu ça. Mais ça aurait du bon sens dans notre atmosphère québécoise syndicale. Mais l'armée, ils sont pas syndiqués, eux autres. Quand ils reçoivent un ordre, ils exécutent, tu comprends?
Il y a quelqu'un qui dit, je suis au 12e régiment blindé à Trois-Rivières. 2 heures après l'annonce médiatique, j'ai reçu un appel pour me déployer.
Tu vois? Alors, ça, c'est une unité de réserve qui est affiliée au 12e, qui est à Valcartier, le régiment de blindés de Trois-Rivières. Alors, ça, c'est la même chose. Je les ai vus ici, mais mes boys, comme je les appelle, ma gang, parce qu'il y a des femmes aussi, le sergent Bilodeau, que j'aime mentionner, est tout petite. Écoute, elle est à peine plus grande que Myriam Segal. Elle est sergent, elle est toujours là, comprends-tu? Elle a eu 2 enfants, je l'ai vu 2 fois porter ses uniformes de combat alors qu'elle était enceinte. Elle a 2 bébés, mais en même temps, c'est une vraie militaire dans l'âme. Et donc, il n'y a pas juste des hommes. Il y a des femmes qui se déploient dans ça. Ça prend du courage, ça prend de l'énergie. Et si tu savais à quel point ces soldats-là, autant les gens de la régulière que les gens de la réserve, sont fiers de faire ce qu'ils font là, parce qu'ils savent qu'ils aident les leurs. Parce que les gens de la régulière là, qui sont au Royal 22e Régiment, ils viennent de partout, dans tous les coins du Québec, de la Gaspésie à l'Outaouais, en passant par toutes les régions.
J'en reçois plein de témoignages de gens qui me disent, et en plus, ils sont très contents de travailler efficacement pour du vrai monde qu'ils connaissent.
Vraiment, là. Quand arrive l'appel, tout le monde est disponible. Soudainement, là, tout le monde est disponible parce que la différence entre les gens de la régulière et de la réserve, entre autres, c'est que la réserve, c'est toujours déployé sur une base volontaire. Tandis que la régulière, tu fais ce qu'on te demande. Okay?
Ouais.
Alors, les gens de la réserve, quand arrivent des déploiements comme ceux-là, il y a d'autres déploiements où c'est moins vite, disons. Quand ils veulent les déployer en Haïti, ça saute moins là-dessus. Là. mais quand ils veulent les déployer pour aider les leurs, pour aider leurs voisins, pour aider les gens de leur famille, écoute, ils sont d'une immense fierté. Et moi, personnellement, je suis d'une immense fierté. Salutations à tous mes amis du Royal 22e, à leur régiment. Sachez qu'on est très, très fiers de vous.
Merci beaucoup, Luc Lavoie. À demain.
Salut.
Salut.